L'écho, l'écho.
Vos paupières sont lourdes.
J'ouvre une école, je ferme une prison.
Arrête, tu me fais peur.
L'écho.
I have a dream.
Le patrimoine a dit vrai.
L'écho des cartables.
Écoutez, taisez-vous, ça commence.
L'écho des cartables.
Des cartables.
L'écho des cartables.
L'émission des élèves des écoles de Montpellier Sud.
Bonjour chers auditeurs, nous sommes les présentateurs de l'émission préparée par les élèves de la classe de cycle 3 de Christelle Lopez à l'école Frédéric Basile
dans le quartier de Figuerolles à Montpellier.
Nous allons commencer par la rubrique lecture d'album en maternelle.
Les élèves sont allés lire à l'école maternelle Docteur Roux des albums pour les plus petits.
Mais pourquoi ils ont fait ça?
Pour nous d'abord parce qu'on voulait voir la maternelle. Pour les plus petits aussi, pour leur faire plaisir et pour qu'ils comprennent les histoires.
Il y aura de la musique,
des blagues,
des interviews de professionnels de foot, du théâtre
et des gens qui travaillent à la crèche du quartier. Allez, on se retrouve juste après la rubrique sur la maternelle. À bientôt.
Oups.
J'ai vu. J'ai lu. Je vous raconte.
Notre projet consiste à lire des albums aux élèves de l'école maternelle du quartier, l'école du Docteur Roux. Le 24 janvier dernier, c'était la première fois que nous y allons. Il y avait Brittany, Solina, Sinaïs et moi, Nico.
Avant tout cela, Anne, la maîtresse du CP, nous avait préparé une dizaine de livres. On en a choisi deux livres chacun et on en a gardé un seul.
Pour que l'on s'entraîne, la maîtresse a donné du travail aux autres élèves et elle nous prenait à part pour lire.
Il fallait bien mettre l'intonation.
Moi, je devais inventer une voix pour un personnage.
Et moi, j'avais une phrase très dure à dire.
Juste avant d'aller à la maternelle, chacun a lu devant toute la classe pour se tester.
À peine la porte est-elle refermée que soudain... Toc, toc, toc! Aïe, aïe, aïe! Voici le loup!
Jean-Loup aime Marie-Lou. Elle avait un peu peur de lui et elle cria quand il l'attrapait pour lui raconter des histoires horribles de méchants loups qui mangent les petits loups.
Tais-toi, dit le lutin, et suis-moi. C'est moi le chef des jouets. Tous les jouets m'obéissent. C'est moi qui commande.
Mais non! « Je suis le jouet de Barnabé !» proteste Mick.
« Tais-toi !»
s'écrie le lutin furieux.
Quand je suis rentrée, j'ai été surpris par la taille des enfants. Même sur le petit banc, leurs pieds ne touchaient pas le sol. Ils sont restés calmes pendant ma lecture. Ils ont peut-être aimé l'histoire et peut-être même la façon dont je lisais. Quelques-uns sont restés la bouche ouverte. J'ai eu du mal à comprendre certaines questions des élèves. Quelquefois, ils bégayent. Ils commencent à parler et ils oublient ce qu'ils voulaient dire.
Pourquoi le petit chaperon rouge n'a pas eu d'annonce là?
Excuse-moi, je n'ai pas entendu.
Pourquoi le petit chaperon rouge n'a pas eu d'annonce là? Loup est revenu. Pourquoi?
L'annonce? Tu veux dire qu'il ne l'a pas vu dans le journal?
Oui, le journal là, l'annonce. Le loup est revenu là.
Ça m'énervait aussi parce qu'ils ne savaient pas répéter leurs questions.
Moi, j'avais une angoisse. J'avais peur que les enfants gênent ma lecture. Mais ça s'est vraiment bien passé. À la fin du livre, quand j'ai montré l'image où on voit les plumes de Popoule voler, les élèves ont cru qu'elle était morte, mangée par un loup.
Et alors, elle n'était pas morte?
Mais non, en fait, Popoule et le loup sont tombés amoureux. Les plumes, c'est parce que, sans doute, ils ont fait un gros câlin.
Eh bien, moi, j'ai été déçue parce que je n'ai pas pu lire dans la classe de ma sœur Daïsana. Finalement, j'ai lu dans la classe orange. La maîtresse m'a dit que j'avais une très bonne lecture.
Moi aussi, on m'a dit ça.
Quand j'ai eu terminé mon histoire, la maîtresse m'a fait écrire mon nom en attaché au tableau. Les élèves étaient émerveillés de voir que je savais le faire. Ça m'a fait rire, parce que moi, j'ai l'habitude.
Pour le lutin, j'ai choisi une voix spéciale. Écoutez.
Tu croyais pouvoir t'échapper? Mais d'abord, qui connaît mon secret? Qui t'a réveillé de ton sommeil de jouet?
Quand je faisais cette voix, je me cachais dans le livre parce que j'étais un peu gênée. Sinon, ça s'est bien passé. À la fin, j'ai même chanté.
Je ne suis plus un simple jouet. Mon grand ami, c'est Barnabé. Je lui ai dit un grand secret. Maintenant, c'est lui, chef des jouets.
Moi, j'étais dans la même classe que Nico. Les petits étaient très curieux de notre visite. Parce que sans doute, ils n'ont pas l'habitude de voir des grands enfants qui lisent des albums. Pendant la lecture, j'étais stressée parce qu'il y avait des mots compliqués que je n'arrivais pas à prononcer. La prochaine fois, je m'entraînerai un peu plus. Sinaïs a interrogé la directrice de l'école, Corinne Martin. Écoutons ce qu'elle nous dit sur notre projet de lecture aux enfants de la maternelle.
Pourquoi est-ce important de lire des albums aux maternelles ?
Alors à la maternelle, ce qu'on cherche, c'est à développer l'imaginaire et à permettre aux enfants de rêver. Donc la lecture déjà de l'album, ça permet de rêver et d'apprendre à rêver. Mais aussi ça apprend à apprendre des nouveaux mots, donc du vocabulaire. Et ça apprend à comprendre des histoires. Et ça, c'est très important de comprendre les histoires quand on est petit, pour comprendre des choses plus compliquées quand on sera un peu plus grand. Et la dernière chose qui est très importante, c'est d'apprendre à lire après. Donc quand on entend lire la maîtresse, après on a envie de lire aussi soi-même, et ça c'est très 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 bien.
Merci.
De rien.
J'ai aimé lire à d'autres enfants pour leur montrer les images.
Moi, j'ai trouvé le calme des enfants apaisant et ça m'a fait plaisir.
Je me suis sentie importante et ça m'a rappelé les années passées dans cette école. J'ai été très dérangée par une élève qui regardait tout le temps la maîtresse en faisant des grimaces. J'avais envie de la taper tellement j'étais agacée.
Moi, j'ai compris pourquoi la maîtresse s'énervait et nous punissait quand on papotait et qu'on dessinait.
Quiz, quiz.
Question, réponse.
Yalla, n'labou.
Charade, j'ai des mots.
Qu'as-tu appris à l'école ? Demande une maman à sa fille.
J'ai appris à écrire.
Très bien, et qu'as-tu écrit ?
Je ne sais pas, on n'a pas encore appris à lire.
Maintenant, sortons de la maternelle et allons au collège.
David et Nico ont travaillé sur les différences entre l'école et le collège, après que nous ayons fait la visite à Foncarade.
Et il y en a des différences, hein ?
Et en plus, ils commencent plus tôt que nous. Et ça, ça ne me donne pas envie.
Dans notre école, il n'y a que 4 classes. On est toujours dans la même classe et on a toujours la même maîtresse. On a des casiers sous nos tables. On peut se lever pour aller chercher un mouchoir ou jeter un papier. Quand on ne respecte pas les règles, on est inscrit au classeur jaune. Au collège, on est plus nombreux. À chaque matière, on change de classe et de professeur. Il y a des casiers pour les demi-pensionnaires. On doit demander à l'enseignant si on a le droit de se lever et ce n'est pas toujours le cas. Si on ne se comporte pas bien, on a des heures de colle.
Nous, on a 30 minutes de récréation. On a 4 sonneries dans la journée pour monter en classe. Notre cour est petite, par contre, au sol, il y a un terrain de foot et de basket dessiné. Ce sont les maîtresses qui nous surveillent pendant la récréation.
On a 10 ou 15 minutes de récré. La cour est grande et on n'a rien dessiné dessus, sauf des marques au sol pour savoir où se ranger. La sonnerie sert à changer de classe toutes les heures. En plus, il y a une chanson. À chaque fin de récré, il y a aussi une sonnerie. Nous sommes surveillés par des surveillants.
Tous les jeudis, on va faire athlétisme au stade Astruc. Notre bibliothèque est dans la classe. Il y a peu de livres. On ne fait que de l'anglais comme langue.
Nous, nous restons dans le gymnase. Nous avons une pièce réservée aux livres qui s'appelle le CDI. On peut apprendre plusieurs langues comme l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'anglais, le chinois, le latin et le grec.
Moi, tout ce que j'en dis, c'est que je préfère notre petite école.
Non, mais pour que tu te prennes, le collège est super cool.
Lolotte est en train de bavarder avec sa voisine en classe. La maîtresse s'en aperçoit et lui demande. Lolotte, quelle est la 5e lettre de l'alphabet ? Très bien, Lolotte. Pourtant, tu n'avais pas l'air très attentive.
De l'école au métier, il n'y a qu'un pas.
D'ailleurs, on se demande souvent quel métier on va faire plus tard.
Dans cette rubrique, nous allons essayer de découvrir deux métiers. Pour cela, deux groupes de journalistes de notre classe sont allés enquêter.
Commençons avec Kenji, Nico, Lenny et Ryan.
Qui veut des métiers ?
Ils ne sont pas chers du tout, mes métiers. Les plus beaux métiers sont ici. Venez les chercher. Des promotions sur le footballeur aujourd'hui.
Nous avons voulu savoir ce qu'il fallait faire comme étude pour devenir footballeur.
Écoutons une première interview réalisée à Grandmont sur le stade où s'entraîne l'équipe de Ligue 1 de Montpellier. C'était le 11 janvier dernier.
Tous ceux qui veulent jouer au foot, c'est les notes qui décident. Première des choses. Deuxième, si vous êtes gentil, si vous ne parlez pas et si vous regardez tranquillement, je vais demander au monsieur de mettre une barrière là, vous allez vous mettre derrière et vous regardez.
Nous sommes actuellement sur le terrain de Grandmont. Nous assistons à l'entraînement de l'équipe Montpellier Héros Sport Club. Nous allons maintenant interviewer quelques joueurs de l'équipe. Nous sommes avec Jonathan Ligali, Adrien Coulomb, Brian Dabo et TJ Savanier. Bonjour messieurs. À quel âge avez-vous commencé le foot ?
Alors, j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans avec l'équipe de mon grand frère.
Alors, moi j'ai commencé à 7 ans, j'étais en CE1.
Moi j'ai commencé à 8 ans.
Moi j'ai commencé à 6 ans.
Qui est-ce qui vous a donné envie de devenir footballeur ?
Ben, de jouer au foot, j'ai eu l'exemple de mon grand frère et de mon parrain, parce que je suis le plus petit de la famille, donc j'ai suivi tous les plus grands. Et sinon, devenir footballeur, c'était Zinedine Zidane, parce que c'était mon joueur préféré et j'espérais le ressembler.
Ouais, ben, moi, c'était comme j'ai dit, c'était après la Coupe du Monde. Quand j'ai vu la France gagner, ça m'a donné envie, tout simplement. Voilà.
La télé, tout simplement. Je regardais et j'ai eu envie de jouer au foot.
Moi, c'est Zidane.
Comment êtes-vous devenu fort ?
Petit, j'étais déjà assez doué, mais après c'est surtout avec le travail et tous les entraînements et grâce au centre de formation de Montpellier que j'ai progressé surtout.
Oui, je pense qu'il a tout résumé. On va pas dire qu'on est fort, mais on travaille, c'est tout, il n'y a que ça. Quoi.
Tu t'entraînes tous les jours, hein, depuis petit. Tu commences à 8 ans ou 6 ans jusqu'à que tu as 20 ans. Après, il faut bien que ça paye un jour, sinon tu arrêtes quand tu es petit.
Quel est le parcours scolaire pour devenir footballeur professionnel ?
Alors, on va dire qu'il est différent suivant les joueurs. Moi, j'ai intégré le centre de formation à l'âge de 13 ans. D'abord, ils sont venus me voir à mon club amateur, parce que je suis originaire de Marseille. Ils m'ont repéré par rapport à mes qualités sportives. Mais après mon premier essai à Montpellier, ils m'ont demandé mes bulletins scolaires. C'est surtout ça le plus important. C'est surtout les appréciations si on est sérieux. On montre, si on est sérieux à l'école, on sera sérieux au foot.
Ouais, c'est vrai que l'école fait partie quand même du bagage du footballeur, mais chacun a son niveau, c'est tout.
Ça dépend, c'est varié. Tu peux passer un bac professionnel, aller en BEP ou les filières générales.
Moi je sais pas parce que je suis pas allé loin dans l'école. Ça fait que voilà, je sais pas.
Pour quelle raison vous aimez votre métier ?
Quand on est petit, on allait à l'école, on n'était pas content et on espérait qu'une chose, c'était la fin de la journée pour l'entraînement. Là, maintenant, je ne vais plus à l'école, je vais qu'à l'entraînement, donc je suis heureux. Je fais ce que j'aime, c'est ma passion, donc je suis content tous les jours d'aller à l'entraînement, je suis le plus heureux quand je me lève.
C'est vrai, il a raison. Dès qu'on se lève, on va aller à l'entraînement, jouer au foot, progresser et tout. Et c'est le plus beau métier du monde, c'est tout. Voilà.
On se donne du plaisir et après voilà, c'est avec la joie des copains, c'est avec tout le monde.
Tous les matins tu te lèves et tu fais ce que tu as envie, donc enfin tu fais ce que t'aimes, c'est bien quoi.
Vous vous entraînez combien de fois par semaine ?
On s'entraîne tous les jours et parfois comme aujourd'hui, on s'entraîne le matin et l'après-midi.
Et des fois il y a un jour de repos le lundi, ça dépend.
Est-ce que vous faites du sport en dehors des entraînements ?
Je peux pas, c'est pas possible ça.
Moi j'en fais pas, je suis trop fatigué.
Personnellement, moi, je vais courir, je fais des footings, je fais un peu de vélo pour me maintenir en forme, comme je suis gardien. Nous, on court moins.
Non, en dehors des entraînements, c'est réservé surtout à la récupération, à bien se reposer. Je reste avec ma famille, mes amis, et je préfère prendre du bon temps plutôt que faire d'autres sports au risque de se blesser.
Quel est votre régime alimentaire ? Mangez-vous bio ? Avez-vous droit au chocolat ?
Ça, faut pas trop le dire, j'ai mangé chocolat, mais... mais pendant les fêtes, j'en ai mangé. Pendant la saison, il faut suivre un régime alimentaire assez strict. On a quand même un poids de forme à maintenir et pas devenir trop lourd, quoi. Sinon, après, sur le terrain, c'est pas bon.
Non, c'est assez équilibré quand même. Il y a un diététicien en plus qui suit tout le monde.
Ben, moi, je le suis pas. Moi, je mange tout. Voilà, j'ai pas de régime pour moi.
Combien de matchs faites-vous par an ?
Je peux pas te dire vraiment, ça doit être quoi, une trentaine de matchs ?
Comment êtes-vous payé ? Par but ? Par match ? Ou par mois ?
On a un salaire, comme tout employé, et quelquefois on a des primes de match, c'est-à-dire quand on gagne, le président le voit à la télé, il dit prime ou pas prime, ça dépend.
Finalement, combien gagnez-vous par mois au total ?
Moi je gagne moins que lui.
Tu me demandes combien on gagne ? 1006.
À peu près pareil.
Ben ça, on va dire, c'est différent déjà pour chaque joueur, mais ça reste personnel, on peut pas dévoiler comme ça notre salaire.
Nous vous remercions pour votre accueil chaleureux et pour les réponses à nos questions. Au revoir.
Ben, au revoir, merci à vous.
Ciao, ciao.
Merci, c'est gentil, ça nous a fait plaisir de répondre à vos questions, c'était sympa.
Un des joueurs ne donne pas son avis. Il répète ce que dit un autre joueur. Je trouve ça dommage.
Moi, je me suis régalée à les regarder jouer. Et ça me motive pour m'entraîner dur.
Quand ils disent que c'est pour le plaisir, qu'ils s'entraînent, qu'ils sont heureux de jouer entre copains, ça me donne encore plus envie de faire comme eux, jouer au foot.
Vous avez compris pourquoi il n'y a que le gardien qui fait du sport en dehors des entraînements ?
Tu peux nous rappeler ?
Eh bien, c'est simple. Les joueurs courent beaucoup alors que le gardien reste autour de ses cages. Il doit s'entraîner pour rester en forme.
L'écho des cartables.
Rejoignons notre deuxième équipe de journalistes qui ont juste traversé la rue pour aller dans une crèche.
C'était le 8 février dernier.
Nous sommes à la halte garderie des Farfadets dans le quartier Figuerolles pour nous renseigner sur le fonctionnement de la crèche et sur le métier des différentes personnes qui y travaillent. Peut-être que ça donnera envie à quelques filles d'y travailler.
Là, c'est pour le goûter.
Est-ce que les personnes qui travaillent dans la crèche ont toutes le même métier ? Est-ce qu'elles font toutes la même chose ?
Dans une halte garderie, il y a une directrice qui est puéricultrice.
Christelle Dental, directrice de la halte garderie des Farfadets.
Une adjointe à la directrice qui est éducatrice. Il y a des auxiliaires de puériculture, des personnes qui ont le CAP petite enfance. Et il y a une personne qui fait l'entretien des locaux et qui peut aussi s'occuper des enfants.
Combien êtes-vous payé ? Et est-ce que tout le monde a le même salaire ?
Non, tout le monde n'a pas le même salaire. Par exemple, une puéricultrice qui est directrice d'un établissement, d'une crèche ou d'une halte garderie, quand elle commence, elle va gagner à peu près 1500 euros. Et au moment où elle va prendre la retraite, elle va gagner à peu près 2300 euros.
Une auxiliaire débute à 1250 euros à peu près en début de carrière.
Sylvie Guimarès, auxiliaire de puériculture.
Et il peut terminer entre 1800 et 1900 euros. En fin de carrière.
Comment avez-vous appris votre métier ? Est-ce que vous vous êtes entraîné avec des poupées ?
Je suis allée au lycée, j'ai eu mon bac. Ensuite, donc j'ai fait 3 ans d'école infirmière. J'ai fait une année encore supplémentaire pour être puéricultrice. On s'entraînait un petit peu sur des mannequins, mais beaucoup en allant à l'hôpital et en travaillant auprès de vrais patients, auprès de personnes qui étaient hospitalisées.
Alors une auxiliaire, moi j'ai eu un BEP sanitaire et social et après j'ai passé un concours pour pouvoir entrer dans l'école d'auxiliaire périculture. Les études se font en 1 an et effectivement on fait des stages 3 ou 4 fois dans l'année.
Si j'ai bien compris, c'est pas besoin d'avoir un bac pour travailler dans une crèche.
Toutes les personnes qui travaillent dans une crèche n'ont pas la même fonction, ne font pas la même chose. Il n'est pas nécessaire d'avoir forcément son bac pour travailler auprès des enfants.
Quels sont vos horaires de travail et combien de jours travaillez-vous ?
Donc on fait 8 heures, 16h30 avec une coupure pour manger, ou on arrive plus tard le matin à 9h, une coupure pour le repas et on finit à 18h.
Et nous travaillons 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.
Est-ce que la crèche est ouverte pendant les vacances ?
Oui, effectivement, la crèche, ce n'est pas le même fonctionnement que l'école. Ce n'est pas scolaire, donc on est ouvert toute l'année, sauf 4 semaines l'été et 1 semaine l'hiver, à la période des vacances de Noël.
À partir de quel âge pouvez-vous accueillir les enfants à la crèche ?
On peut accueillir les enfants à partir de 2 mois et demi, 3 mois.
Qu'est-ce que vous faites faire aux enfants ? Qu'est-ce que vous leur apprenez ?
Les petits, c'est beaucoup plus de l'éveil.
Pouvez-vous nous dire ce que c'est l'éveil ?
Quand ils sont tout petits, on propose des petits jouets, des hochets, des jouets qui ont des couleurs différentes, qui font du bruit, qui font... Alors là, le bébé, il va essayer de l'attraper, il va essayer de le mettre à la bouche, il va essayer de le goûter, il va essayer de reconnaître les couleurs. Il va essayer de reconnaître les différentes matières, si c'est du bois, si c'est du tissu, si c'est... Voilà, l'éveil, c'est tout ça, c'est aider l'enfant à connaître et à reconnaître les choses qui l'entourent.
Est-ce que la crèche, ça leur sert à s'habituer à l'école ?
Oui, ça leur sert à s'habituer à l'école. En tout cas, ça leur sert à être dans un grand groupe avec d'autres enfants. Et ça leur sert à ce que d'autres adultes, à part leur maman, s'occupent d'eux.
Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné tous ces renseignements. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir et merci à vous.
Eh bien moi, je n'aimerais pas travailler dans une crèche. C'est plutôt un travail de fille, parce que c'est elle qui fabrique les bébés.
Tu sais, Myron, il faut être deux pour faire un bébé. Moi, je me vois bien travailler dans une crèche. En plus, je trouve que le salaire est bon.
J'aimerais gagner un peu plus d'argent que ça quand même. Mais avec cette interview, j'ai appris pourquoi les bébés mettent tous les objets à la bouche. C'est pour mieux voir ce que c'est. Ils touchent d'abord avec les mains et ensuite avec la bouche.
Vous savez, changer les enfants à la crèche, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère jouer au foot.
Un tout petit garçon explique fièrement à son père. « Dis papa, tu sais, eh bien, je vais me marier. »«
Ah bon ? Et avec qui ?
Avec grand-mère. »«
Mais voyons, tu ne peux pas épouser ma mère. »«
Et alors, est-ce que j'ai dit quelque chose quand tu as épousé la mienne ?»
Maintenant, nous allons mettre un morceau de musique gitane pour se détendre.
Ce morceau a été choisi par Kenji et moi-même, Cheyenne.
C'est la zig zig, c'est la zig 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 du jour, yo!
Au clair de la lune,
yo!
C'est FM 93.9.
Voilà, pour moi c'est ça.
Un écureuil se gare devant un panneau de stationnement interdit. Un policier s'approche et le met en garde.
Dites donc, vous voulez une amende ?
Oh, si ça ne vous fait rien, je préférerais une noisette.
La musique, le théâtre, le cinéma font partie de la culture. Et la culture, ça détend et ça nous apprend la vie.
À ce propos, Organza Régis, Organza Villa, Abigail et Sinaïs vont vous présenter le spectacle que nous avons vu à la Vista.
La pièce s'intitulait « La farce du gigot » et c'est la compagnie Le Théâtre de Carton qui l'a créée.
farce de théâtre inspirée de la Commedia dell'arte, originaire d'Italie. Dans la Commedia dell'arte, les acteurs improvisent la plupart du temps. Le personnage le plus connu est Harlequin. Dans la farce du Jugot, il y a deux personnages masqués et deux marionnettes, Harlequin et Brighella, que va nous présenter Sinaïs.
Harlequin a un costume rapiécé. Il est un peu bête, c'est pour ça qu'il est rigolo. Il a souvent faim et il est capable de tout pour trouver à manger. Brighella a un costume blanc, il est cuisinier.
Dans ce spectacle, Harlequin est prêt à tout pour manger le gigot préparé par Brighella, même à se déguiser en fille. Il y a des courses-poursuites et des bagarres.
Nous avons posé des questions à l'acteur qui joue Harlequin, Jean-Pascal Drobemez.
Bonjour Jean-Pascal, nous allons vous poser quelques questions. Combien de temps avez-vous mis pour fabriquer la farce du gigot ?
Alors, il y a eu deux périodes bien séparées. Il y a une première période de répétition avec les comédiens, et il y a eu une période de construction du décor, des costumes et des marionnettes. Donc voilà, on a dû mettre 3 semaines pour la partie comédien et 2 ou 3 semaines pour la partie décor et marionnettes.
Est-ce que vous improvisez sur scène ou est-ce que vous avez appris le texte par cœur ?
Dans la Commedia dell'arte, on se met d'accord sur ce qu'on appelle le canevas, c'est-à-dire l'histoire qu'on va raconter. Et après, à tout moment du spectacle, les acteurs peuvent improviser un petit peu. On peut changer un mot, on peut changer un geste. Ce qui nous demande, nous, d'écouter vraiment nos partenaires pour savoir ce qu'ils vont dire à ce moment-là ou faire à ce moment-là.
Ils sont là. Oh, mais je vais aller ouvrir.
Ce n'est pas trop dur pour Rosario, l'actrice sur scène avec vous, de jouer le rôle d'un garçon et vous de vous déguiser en fille?
C'est vrai que non seulement c'est pas dur, mais en plus c'est drôle. Le théâtre, c'est vraiment ça. On se transforme. On se met un costume et on se transforme en quelqu'un d'autre. Donc jouer une fille, pour moi, non, c'est drôle. Et Rosario, jouer un garçon, elle m'a dit qu'aussi elle s'amusait bien.
C'est vous qui fabriquez les masques que vous portez dans le spectacle ?
Alors, moi je ne sais pas faire, mais c'est vraiment Rosario, la comédienne que vous avez vue, qui a fait une école de construction de masques et de décors. Donc c'est elle qui a construit tous les masques, c'est elle qui a fait les costumes, c'est elle qui a fait aussi, qui a construit et peint le décor. Rosario, elle a vraiment un double métier.
Dans les scènes de bagarre, vous vous tapez vraiment dessus ?
Nous, on ne se fait pas mal, mais on a travaillé des techniques qui font que, pour vous, spectateurs, vous allez penser qu'on se tape vraiment dessus. Donc, il y a plein de petites méthodes pour ne pas vraiment taper et pour faire, entre guillemets, semblant.
Comment sont fabriquées les marionnettes d'Harlequin et Brighella ?
Les marionnettes utilisées dans la farce du gigot, sont ce qu'on appelle des marionnettes à gaines. C'est un peu comme un gros gant et on va mettre la main dedans. Et avec les doigts tendus, on va venir tenir la tête et avec les autres doigts, on va faire les bras du personnage.
Merci Jean-Pascal d'avoir répondu à nos questions.
C'était un plaisir, merci pour vos questions.
Théâtre. Tu savais, toi, que la maîtresse l'en faisait ?
Ben oui, mais elle fait du théâtre d'improvisation. Sa troupe s'appelle les Improspectus.
Tu sais où on doit aller pour voir ce spectacle des Improspectus ?
Eh oui, il joue tous les mois à la laiterie. Et le prochain spectacle, c'est le 3 mars.
Alors, allez voir les Improspectus, parce qu'il y a ma maîtresse et elle est trop forte.
Il y a un autre endroit où l'on peut voir des spectacles.
Oui, il y a la chapelle dans le quartier.
D'ailleurs, si vous allez voir un spectacle, n'oubliez pas de regarder devant, car les élèves de CE1
un CE2 de l'école Frédéric Basile ont fait des plantations.
Oh oui, elles sont trop belles.
Eh bien, j'espère qu'elles seront belles longtemps.
L'émission se termine. Nous allons vous quitter, mais avant ça, quelques remerciements.
Un premier merci à vous, chers auditeurs.
Merci à notre maîtresse Christelle Lopez.
À Thierry Caferral, le réalisateur de l'émission.
À Elisabeth et Virginie qui nous ont aidés à trouver tous ces mots.
À tous ceux qui m'ont répondu à nos questions.
C'est pas toujours facile de préparer une émission de radio.
Enregistrer des footballeurs sous la pluie. Ne jamais faire de bruit quand on enregistre.
Mais c'est bien de passer à la radio, même si c'est dur. On s'est régalé.
Maintenant, la parole à tous les journalistes présentateurs de l'émission.
Lenny,
Cheyenne,
Kenji,
Myron,
Organza,
Nico,
Dorian,
Dawson,
Brittany,
Crystal,
Lorenzo,
Ryan,
Sinaïs,
Solina,
Jade,
Sharon,
Organza,
Abigail,
David.
Le mois prochain, l'écho des cartables sera à l'école Charles Dickens, dans la classe de CM2 de Madame Catherine Vandemolbroek.
Vous pourrez l'écouter sur Divergence FM le mercredi 23 mars à 9h30.
Et dans votre lit.
Le jeudi 24 mars à 14h30.
En classe.
Et le dimanche 27 mars à 14h.
Et là, vous pourrez l'écouter en famille.
Allez, bonne nuit à toutes. Ciao.
On est plus fort.